On le sait, la culture mondiale est depuis longtemps préemptée par l'Occident, et lorsqu'on parle littérature, cinéma, musique ou art, il y a de grandes chances pour que dans notre tête, ce soit des œuvres américaines, européennes ou allez, soyons fous, asiatiques qui nous viennent à l'esprit. Et pourtant, il y a tant d'artistes sur la planète qui portent en eux des récits, des images et des œuvres pertinentes, puissantes, politiques, poétiques et sensibles, qui ne demandent qu'à être partagées. Parce qu'il y a tant à dire sur ce monde en ébullition et qu'il est vital d'entendre les voix marginalisées, des personnes, des lieux et des événements continuent coûte que coûte à valoriser cette richesse. C'est ce à quoi s'attellent les rendez-vous des cinémas d'Afrique à Montciné qui se déroulent actuellement et pour lequel nous sommes aujourd'hui en public et en direct à l'issue de la projection du documentaire du franco-égyptien Namir Abdelmessé pour son film La vie après Siam. Nous échangerons donc pendant l'émission sur ce film qui sera pour nous un point de départ pour découvrir ensemble l'histoire du cinéma égyptien et sa place au sein de la société. À mes côtés, du coup, pour m'accompagner durant cette émission spéciale, Cécile Clapier. Salut.
Bonjour.
Cécile. Tu es fondatrice de ce festival et coprogrammatrice. Et tu travailles à Montciné. Tu es chargée de la programmation jeunesse, entre autres.
Chargée du jeune public et de l'éducation aux images, au cinéma.
Bienvenue à toi.
Merci.
Merci de nous accueillir dans ton cinéma. Je me tourne maintenant vers Thierno Ibrahimadia. Bienvenue, Thierno.
Merci Rémi, bonjour à tout le monde.
Thierno, tu es enseignant, donc tu enseignes le 7e art au département art de l'université Bordeaux-Montaigne et tu es aussi rédacteur en chef d'Africiné Magazine et tu as aussi longtemps été animateur chez nos collègues de Radio Campus Bordeaux, si je ne m'abuse.
Oui, oui. Si effectivement je suis maintenant moins à plus à l'université de Bordeaux-Montaigne, plutôt dans d'autres universités à Niamey et à Genève aussi.
Ok. Et enfin, nous accueillons Marie Farag. Salut Marie.
Salut Rémi.
Donc, tu es chercheuse en cinéma et tu es aussi distributrice de films, dont un film qui a été diffusé hier soir, L'Entente, qui a été diffusé hier soir sur le festival. Et tu es très calée sur le cinéma égyptien, puisque tu es égyptienne et que tu fais de la recherche autour du cinéma égyptien, entre autres. Merci à vous trois d'être avec nous pour cette émission. Le quatrième invité de cette émission, c'est vous, le public, qui êtes là. Donc vous pourrez, pendant l'émission, intervenir. Il y a un micro qui pourra tourner. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui est derrière toi, Marie, qui va gérer la technique. Merci à toi, Arnaud, grâce à toi, nos ondes radiophoniques vont partir en direct dans les cuisines, les salles de bain ou les voitures. Des Grenoblois, vous êtes donc sur Radio Campus Grenoble sur le 90.8. On est en direct du festival Les Rendez-vous des cinémas d'Afrique à Montciné et vous avez bien raison de nous écouter.
Allô Nico, tu connaîtrais pas un ingénieur du son? Pour l'instant, c'est pas payé, mais je suis sûr qu'on trouvera un producteur. Un scénario. Pourquoi faire?
C'est un film de merde.
Répète ce que tu viens de dire là.
C'est un film de merde.
J'avais fait une promesse à ma mère, celle de refaire un film ensemble. Son rêve, c'était de jouer dans une de ces histoires d'amour qu'on voit dans les vieux films égyptiens. Attention, silence, moteur, action.
Alors voilà, c'était la bande-annonce de La vie après Siam du franco-égyptien Namir Abdelmessé qu'on vient de regarder tout juste, tous ensemble dans la salle. Alors les auditeurs et les auditrices n'étaient pas avec nous, donc peut-être pour qu'ils comprennent quand même un petit peu de quel film on va parler, du moins en début d'émission. Est-ce que peut-être, par exemple, Cécile, tu peux nous dire deux mots un petit peu sur le scénario du film, sur le pitch du film ?
Et oui, bien sûr. Donc, La vie après Siam, qu'on vient de diffuser, est un film documentaire qui est sorti sur les écrans à la fin du mois de janvier de cette année, là, en 2026, et qui nous raconte l'histoire de Namir, donc le réalisateur, qui a décidé, à la mort de sa mère, de filmer. Il filme un peu de façon compulsive depuis tout le temps. Il avait le souhait, après son deuxième film, La Vierge, les Coptes et moi, de faire un film sur sa mère, avec sa mère en tout cas. Et sa mère est décédée trop vite et trop rapidement. Et donc, à sa mort, il décide de filmer un petit peu de façon compulsive pour un peu combler des manques. Et pour cela, il va filmer son père. Il va le filmer dans tous les enfants, dans tous les moments de la vie. Il va essayer d'avoir des informations sur sa mère, de rassembler un petit peu le puzzle de sa vie, le puzzle manquant de sa vie à travers ce film-là. Et voilà, il filme jusqu'au décès de son père. C'est une façon effectivement de faire et revivre sa mère et revivre aussi et filmer son père avant qu'il disparaisse. Donc c'est un film sur la mort de ses parents, mais c'est aussi un film sur la vie de ses parents.
Alors du coup, Namir, son précédent film, c'était La Vierge, les Coptes et moi, un film dans lequel un film sur une apparition. Et là, du coup, on est quand même plutôt sur un film sur une disparition. Est-ce que, de votre point de vue, il a réussi justement ce pari ? Enfin, à mon avis, c'est un pari quand même de faire un film sur une disparition. Est-ce qu'il a réussi ce pari, d'après vous ? Et est-ce que, dans le fond, en fait, le film est d'ailleurs sur ce sujet, une disparition, ou est-ce que finalement, il est sur autre chose ? Marie ?
Pour moi, Namir, il a réussi... De parler d'une disparition et d'une apparition aussi de la mère, parce que au début du film, il cherche d'écouter toujours des histoires de sa mère du côté de son père, qui au milieu du film, il lui a dit « je suis épuisé, ça suffit ». Ensuite, il continue à chercher sa mère, du coup. Dans le village, il demande à sa tante, il remet toujours des images de films. Il voit sa mère sur des images d'archives d'autres films, de Youssef Chahine, par exemple, parce qu'elle a toujours voulu être une actrice, comme elle l'a dit au début du film. Donc, il cherche toujours sa mère pour qu'elle soit présente d'une manière ou une autre. Donc, c'est une absence et une présence en même temps.
Pour moi, Rémi, tu as bien résumé le film, parce que le film est le cinéma, d'une manière générale. Je dis toujours que le cinéma, est, par essence, c'est comme un formol. Ça capte le vivant, ça est pour le restituer, pour le garder. Donc, on est dans à la fois la disparition et le défi de l'apparition. Comment capturer quelque chose qui, par essence, va disparaître, ce moment qu'on vit ensemble va disparaître, mais il va être gardé par la magie du son d'Arnaud et de Radio Campus Grenoble. Je pense que c'est cette question-là qui est à la base de la capture de l'image que s'est posée dans l'Égypte ancienne. On s'est posé en Inde avec le théâtre des ombres. C'est la représentation par essence, c'est ça. C'est le défi humain face à la disparition.
En tout cas, on voit qu'il lui, il croit vraiment fort au cinéma. Il en parle dans le film, hein, pour la mémoire et pour garder la vie qui continue. Il y croit fort au point qu'effectivement, il filme tout le temps, quoi. Enfin, il y a même un moment, ça, c'est tellement compulsif que ses enfants en ont vraiment marre, quoi. Son fils lui claque la porte en lui disant « c'est bon, allez, lâche-moi », quoi. Ouais, est-ce qu'au sein de la salle, vous voulez peut-être déjà avoir une petite réaction à chaud sur le film ? Parce que c'est quand même un film qu'il faut... Enfin, alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, j'ai beaucoup pleuré devant ce film. Je le trouve très émouvant et il est universel, en tout cas dans sa thématique. Mais il est fort. Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous peut-être quelques mots ou pas ? Ouais ? Si on peut amener le micro au monsieur au fond.
Bonsoir. Merci Monciné, merci Radio Campus, merci pour ce plateau. En fait, pour moi, ce film est une... je l'ai vu comme ça, en fait, une déclaration d'amour avec plusieurs facettes. La déclaration d'amour principale, pour moi, c'est la déclaration d'amour de Namir Abdelmassih pour le cinéma. Donc, il y a plusieurs réalisateurs qui ont essayé de montrer leur amour, leur attachement à l'image, au cinéma, à travers leurs films. Donc, pour moi, ce film, il s'inscrit dans ce registre, déjà. Et puis, c'est une déclaration d'amour à ses parents, à sa maman, à travers la reconstitution de son histoire. Une déclaration d'amour à son père, aussi. Et puis, elle a fini par, comment dire, décrocher de la bouche de son père une déclaration d'amour envers lui. Donc, c'est une déclaration d'amour à plusieurs niveaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et puis, je trouve un peu... bon, bien évidemment, donc on trouve... Dans tous les cinémas égyptiens, on trouve, ça c'est un autre aspect, on trouve les, comment dire, on l'a vu déjà à travers des clins d'œil au cinéma de Youssef Chahine, mais on trouve aussi l'impact de Youssef Chahine, et non pas seulement de Youssef Chahine, je trouve aussi l'impact de l'un des grands disciples de Youssef Chahine, de Yousri Nasrallah, aussi, que je trouve dans, à travers les techniques, à travers la manière de filmer, à travers la façon de raconter, et donc je trouve que c'est, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci.
Merci. Et effectivement, ce n'est pas qu'une déclaration d'amour à sa mère. Parce que, enfin, moi, en tout cas, la première fois que j'ai vu le film, c'est vrai qu'en sortant, je me dis que c'est aussi une grosse, grosse déclaration d'amour à son père. Le film, il aurait pu s'appeler La vie avec Wagi, en fait, aussi. Quoi. Il y a quand même son... Il est émouvant, son père. En plus, il est plein de pudeur. Tu sens que c'est vraiment dur pour lui de parler. Et en même temps, voilà, il se dévoile au fur et à mesure du film. Il est très touchant aussi, son papa. Peut-être qu'on parlait de Youssef Chahine et donc des extraits. C'est vrai que donc c'est un film qui est fait de patchwork quand même, de plein de sources. Donc il a pris des extraits de vieux films, des choses qu'il filme dans sa vie privée. Bon, il y a plein de choses qui forment le montage. Et effectivement, donc il a allé piocher principalement dans deux films de Youssef Chahine. Alors je ne connais pas Youssef Chahine. Sans doute que beaucoup de gens ne savent pas qui c'est. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on mette un petit pied justement dans la question du cinéma égyptien, peut-être en resituant qui il est, ce réalisateur, sa place dans l'histoire du cinéma égyptien.
Tout d'abord, pas tout le monde a reconnu les images des films de Youssef Chahine dans le film. Bah, peut-être il y a une génération, les jeunes français, ils savent pas ou ils n'ont pas tous vu les films de Youssef Chahine. Youssef Chahine, c'est les deux films que Namir a utilisé les images, c'est les années 65 et 76. Et c'est la même époque de ses parents, les mêmes photos, les mêmes... le même style, donc on pense même que si c'était pas déjà des images d'archives qu'il a fait exprès pour le film, parce que ça ressemble beaucoup à sa maman. Et en même temps, Youssef Chahine, c'est important pour beaucoup de générations de cinéastes, les années 80, 90 jusqu'à maintenant. C'est...
En quoi il a été important dans le cinéma égyptien, justement ? Est-ce qu'il a amené une rupture dans le style de cinéma qui était fait ?
C'est ça, c'est que Youssef Chahine était le premier de faire une autobiographie, par exemple, de faire des films qui parlent de sa vie personnelle. Donc, on s'attache pas seulement sur sa manière cinématographique ou son point de vue politique, tout ce qui est aussi intéressant, mais on s'attache à lui personnellement parce qu'on connaît bien son histoire. Et lui, il a réussi de raconter sa propre histoire via ses films. Ce que, par exemple, là, pour notre génération, il y a Namir qui fait exactement pareil. On est arrivé à sortir un peu du cinéma, un cinéma chic, cinéma de propagande et de parler de nous, de parler de réalité, de parler de notre vie.
Et est-ce que tu peux nous redire les deux titres de films de Youssef Chahine que Namiri utilise dans son film?
Oui, c'est Audat al-Ibn al-Dol, le retour de l'enfant prodige. Et l'autre film, c'est L'aube d'un nouveau jour. D'un jour nouveau.
De 1964.
Peut-être aussi ce qu'on peut dire de manière plus... quand Marie, tu disais que sur sa vie, il a été formé à Hollywood, aux États-Unis. Il a fait cette formation aux États-Unis et effectivement, il a montré comment son parcours, sa formation, il est d'une formation très classique du cinéma hollywoodien et en ayant développé un cinéma très égyptien ou avec Gare Centrale, avec des, aussi des films aussi critiques comme Le Destin, où il a dessiné avec la montée de l'islamisme extrémiste en Égypte pour contrer par le cinéma en nous ramenant vers l'Espagne andalou où il y avait ce vivre ensemble qui était là, cette pulsion de vie que les extrémistes de tous bords, que ce soit que en France ou à la Maison Blanche aujourd'hui, veulent éteindre. C'est cette étincelle de joie qu'il a insufflé dans son cinéma, et surtout c'était l'un des principaux producteur de films, enfin dans le sens où il a fait le plus de films aussi, et pas seulement en Égypte, aussi au Liban. Et c'est un cinéma qui a vraiment beaucoup circulé autour de la campagne de Napoléon avec le général Caffarelli, en faisant tourner avec de grands auteurs français comme Michel Piccoli. C'est aussi cette dimension-là très internationale qui fait qu'il est reconnu pour ce qu'il est aussi.
Alors, puisque tu parles justement de la question internationale, le cinéma égyptien a assez vite été important dans son histoire d'un point de vue économique et social, et justement c'est assez vite développé, assez vite rayonné en Afrique et ailleurs. Vous pouvez nous dire un petit mot de justement peut-être de l'histoire un peu, voilà, un peu vue de loin, générale de cette histoire du cinéma égyptien?
La première projection, c'était la projection des Frères Lumière à Alexandrie en 1996. Donc, vraiment début de... 1800, pardon.
Donc, juste après les premières qui ont été faites en France.
Exactement, oui.
Donc, à l'époque, on était c'était une colonie britannique, on est d'accord?
Exactement, c'était l'occupation britannique et l'Égypte, surtout Alexandrie, c'était cosmopolitaine. On avait du monde de toute nationalité. Et du coup, le cinéma a très vite été dans plusieurs villes en Égypte, à Alexandrie, même à la Haute-Égypte. Il y avait des cafés qui se sont transformé pour une petite salle de cinéma une fois par semaine. Il y avait des cinémas, des projections seulement pour les femmes. C'est devenu pas seulement de l'art, mais aussi un business que tout le monde a vu, que ça marche hyper bien. Et on n'avait pas encore nos films à nous, des films égyptiens.
C'est ça, j'allais te demander, Marie ou Thierno, du coup, c'était quel type de films qui étaient diffusés là, sur ces premières années-là? Début 1900,
italien,
dans les cafés,
français, américain, bien sûr. Mais on n'a pas tardé à faire des films quand même. Il y avait l'apparition des caméras qui ne sont pas très lourdes. On a commencé à faire des films. Les gens ont filmé de plus en plus. Et là, on a commencé à faire des films au début des années 20, quoi. Et même l'économie du cinéma, le cinéma a trouvé une place dans l'économie de l'Égypte jusqu'à ce que le cinéma apportait plus d'argent que le coton égyptien. Donc, c'est
assez vite devenu un enjeu politique aussi. De maîtriser aussi, du coup, d'avoir ce... Parce que le cinéma, c'est aussi de la propagande, c'est aussi une façon aussi de diffuser des idées. Donc j'imagine qu'assez vite, le pouvoir s'est rendu compte qu'il y avait un certain atout à maîtriser ce truc-là.
Le cinéma a toujours été politique, même quand il est né aux États-Unis, et qu'il se rend compte que les Français ont technologiquement eu une avance avec les frères Lumière. Il y a une collusion avec la mafia, avec les pouvoirs politiques pour freiner l'avancée française que le temps que les Américains avancent. Donc il y a toujours eu une dimension politique au cinéma. Et ce qui est intéressant dans le camp de l'Égypte, c'est que souvent, ça a été à un moment un trou noir de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des recherches, mais qui ont été faites beaucoup en arabe. Et on retrouve maintenant une traduction qui commence à se faire en anglais, en français, qui nous arrive et qui nous éclaire mieux sur ces premiers moments. Mais quand on se retrouve encore du tout côté des États-Unis, l'une des premières personnes africaines à être filmée, c'est une égyptienne, Fatima Jemil, avec Fatima Kuchi Kuchi Dance, c'est la foire de Chicago de 1893 où les frères Edison filme une égyptienne en train de faire la danse du ventre, Kuchi Kuchi Dance ou Belly Dance, c'est pour ça, ou Muscle Dance. On retrouve cette capture donc d'une africaine expatriée et qui est filmée. Et c'est donc en 1893, le film, l'un des premiers films qu'on va retrouver date de 1896. En France, il y a eu une Africaine qui a été filmée. C'est la potière Wolof, une Sénégalaise au Champ de Mars qui fait de la poterie. Et donc, c'est d'abord des femmes expatriées qui sont filmées. Et avant cette production en interne, La Place des Consuls, le premier film des Frères Lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Égypte, c'est que moins d'un an après la naissance du cinéma, Boulevard de Capucines, en décembre 1995, on a le 5 novembre 1996, la première projection à Alexandrie. Et donc, pas dans la capitale, mais toujours ce côté excentré. Et c'est pour ça que moi, je parle aussi beaucoup de... Monsieur a parlé dans la salle de Yousri Nasrallah, donc le premier assistant de Youssef Chahine, qui a développé ce que moi, j'appelle l'école d'Alexandrie. Pourquoi ? Parce que la capitale est plus exposée politiquement, plus exposée à la censure. Et à Alexandrie, autour de Yousri Nasrallah, il a développé tout un ensemble, un écosystème de cinéastes qui ont pu prendre la caméra, développer comme Ahmed Abdallah avec le film sur Héliopolis, Microphone aussi avec Khaled Abolnaga. Donc, développer aussi des écritures nouvelles. Par exemple, Microphone Ahmed Abdallah annonce déjà la révolution de 2011.
Ah non, de 2011, pardon.
Déjà, avec ce personnage qui est sous la douche, qui est mal à l'aise avec sa cafetière qui est en train de bouillir, comme si cette jeunesse comprimée c'est un personnage qui veut juste organiser un concert. Et les mollahs lui tombent dessus, les politiciens lui tombent dessus. C'est toujours ce que j'ai dit, cette pulsion de vie, cette pulsion de joie que les extrémistes essaient d'éteindre, de mettre sous l'éteignoir et que la caméra essaie de capter et de restituer. Et ce film, et Yousri Nasrallah joue dans ce film le rôle d'un professeur de cinéma. Donc il apporte pas seulement un concours, un appui, mais il se met lui aussi en danger en portant une parole divergente pour pouvoir faire entendre la voix du peuple. C'est d'ailleurs parlant que c'est autour de lui que les cinéastes égyptiens de la place Tahrir ont capturé en direct cette révolution en train de se faire.
Alors peut-être, je reviens un tout petit peu en arrière, Tierno. L'arrivée du cinéma parlant, il me semble, a été aussi un peu un tournant dans le cinéma égyptien. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que ça a enclenché au niveau de... En tout cas, de ce que j'ai pu en lire, c'est que le parlant et le son a amené une espèce de révolution dans le cinéma, dans la comédie musicale. Et c'est un peu aussi le cliché qu'on a parfois du cinéma égyptien. C'est des hommes et des femmes dans la rue qui chantent un peu comme le cinéma indien, d'ailleurs, parfois. Et il y a eu toute une vague, visiblement, après, dans les années 30, avec l'arrivée du parlant de ce cinéma-là, qui a été apparemment important.
Oui, c'est vrai qu'en Égypte, surtout dans l'histoire, au début du cinéma, c'est que les gens sortaient les week-ends pour voir un magicien, pour écouter un chanteur, parce que la musique joue un rôle très, très important dans la culture égyptienne. Et avec l'apparition du cinéma, il y avait une manque d'écouter la musique égyptienne ou de voir des danseuses, tout ça, qui est venu après. Mais au début, c'était plus la musique qui a pris une place très importante dans le cinéma, parce que ça met ensemble le cinéma et la musique, et qui sont les deux très importants pour les Égyptiens. Donc de les voir, Mohamed Abdelwahab, un grand compositeur et chanteur, c'est le premier qui est apparu, avec Oum Kulsoum aussi, de voir tous ces grands musiciens qui sont devenus acteurs au cinéma. Ça a donné aussi plus d'importance pour le cinéma envers les Égyptiens, pour aller voir Oum Kulsoum au cinéma. Et aussi, en même temps, pour l'économie du cinéma, ça a augmenté très, très fort.
Et puis, pourquoi aussi cette connexion entre la musique? Parce que l'une des premières sociétés créée par un banquier égyptien, Talat Harb, la société Misr pour le théâtre et le cinéma. Donc, à la fois, le théâtre et le cinéma étaient produits, et il y a eu déjà des connexions entre les deux formes d'art. Et effectivement, comme tu le dis, Marie, il y a eu beaucoup de... la musique est très importante dans la culture égyptienne. Et donc, c'est tout naturellement que ça... après l'arrivée du parlant, le chanteur de jazz, en 1927, aussitôt, on a le film en Égypte aussi. Et donc, c'est aussi... De se rendre compte des possibilités de ce médium qui s'élargit aussi, et donc le continent africain s'en est saisi.
Les studios Misr dont tu viens de parler là, Tierno, ça a été, il me semble, les premiers gros studios qui ont été construits en Égypte, et qui sont quasiment des studios hollywoodiens, c'est ça ?
C'est ça, c'est un très grand studio, et l'idée c'est venu même avant 1930. Et à la base, ce n'était pas Talat Harb. Talat Harb, c'est celui qui a financé quand ils ont décidé de le faire à Giza, au Caire, parce qu'il y avait une opportunité d'avoir un grand espace pour faire les studios de son, pour la prise des images, etc. Mais après, au début, c'était juste une idée. Qui avait beaucoup de lieux jusqu'à 37, l'ouverture du Studio Mas qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, qui est à Giza. Voilà.
Peut-être juste aussi ajouter que les femmes ont aussi été très importantes. Je pense à Aziza. Et Samir et Fatma Rushdie aussi, qui ont été des actrices et productrices. Et Aziza Samir est même passée derrière la caméra pour réaliser. C'est aussi très important. C'est un phénomène qu'on retrouve, par exemple, dans d'autres pays africains, comme le Nigeria, où les femmes sont très motrices dans ce qu'on appelle l'industrie de Nollywood, Nigerian Hollywood. Donc aussi, on a une sorte de récurrence.
Moi, j'ai une question aussi sur la diffusion du cinéma égyptien, parce que c'est un cinéma qui est beaucoup regardé dans toute l'Afrique. Et voilà, si vous pouvez un peu nous expliquer, parce que économiquement, j'imagine que derrière, il y avait aussi une volonté de diffuser ce cinéma-là, et voir un petit peu comment ça se passait dans les autres pays, et comment les Égyptiens ont réussi, en tout cas, à ce que leur cinéma se diffuse dans tous les pays africains. Tout le monde connaît le cinéma égyptien.
L'avantage de l'Égypte et du cinéma égyptien, c'est qu'en Égypte, on parle un arabe plutôt classique. Et donc, qui voyage plus et mieux que, par exemple, le Darija marocain ou d'autres parler plus locaux. Et donc, cette langue a été une force. Et la plupart des entrepreneurs du cinéma étaient des Libano-Syriens. Et si bien qu'à Dakar ou ailleurs, on trouve le cinéma Al-Akbar, donc le grand. Beaucoup de cinémas portent des noms en arabe. Et donc, c'est aussi, il y a une connexion. Après, c'est vrai que le centre névralgique s'est déplacé du Caire vers Beyrouth, au Liban en moment, grâce aux Égyptiens toujours, d'ailleurs. Mais c'est cette connexion entre Liban, Égypte et les Égyptes libano-syriens qui sont présents un peu partout, au Burkina, etc., Côte d'Ivoire, et ça expliquait cette connexion culturelle qui fait qu'il y a des Sénégalais d'origine libano-syrienne. Et donc les Africains du continent ont toujours pu voir très vite et massivement ces films. Et puis, quelle est la chose la plus universelle que le chant, la danse?
Oui, il y a aussi la façon dont effectivement, les comédies musicales comme le cinéma indien, par exemple, qui est un cinéma qui s'exporte énormément dans le monde. Donc, il y a le genre cinématographique, on va dire, et puis il y a les histoires qui sont racontées aussi. Peut-être qu'il y avait une façon des récits racontés, en tout cas, qui étaient très populaires et qui parlaient à toute l'Afrique, quoi.
Au Sénégal, les cinéphiles moi, j'ai un oncle qui parle en hindi. C'est juste en allant au cinéma, en regardant des films indiens, et que des gens parlent, mais couramment, hindi. Donc, comme quoi la force du cinéma, et donc aussi par cette musique, cette chant. En plus, le Sénégal, c'est un pays majoritairement musulman, où les gens aussi comprennent et parlent et écrivent l'arabe. Et aussi, l'Égypte, très tôt, dans les années 1900, a inauguré le sous-titrage des films en arabe. Ça aussi, ça a permis aussi cette vitalité du cinéma en Égypte et ensuite de l'Égypte vers le reste du continent.
Il faut aussi dire qu'en Égypte, assez vite, il y a eu un réseau de salles assez important. Et sur le continent africain, ça a été le premier pays avec un réseau de salles dès le début des années 1900. Là, il y avait déjà des salles qui se développaient un petit peu partout. Tout à l'heure, quand on parlait je vais retrouver son nom, Youssef Chahine. Lui, il arrive dans les années 50-70. Ensuite, il y a quand même de nombreux régimes politiques qui vont passer là en Égypte. Comment est-ce que, justement, après là, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, les différents régimes politiques ont influencé le cinéma?
Tout d'abord, après la révolution de 1952, Gamal Abdel Nasser, qui était un grand fan du cinéma aussi, il a rêvé que de faire du Caire le Hollywood du Moyen-Orient. Donc, pas seulement parce que économiquement le cinéma est très important, mais aussi parce que ça jouait un peu de le jeu de le rôle, pardon, de propagande. Mais ensuite les producteurs étrangers sont devenus de moins en moins actifs dans la production cinématographique, et c'est seulement le gouvernement qui finance les films. Ensuite, dans les années 70, on a une grande ouverture sur les pays du Golfe, etc. Et beaucoup des gens ont commencé à investir dans le cinéma, même si ils n'ont jamais travaillé dans le cinéma. On a eu plein de producteurs égyptiens, et et autres du monde arabe. Donc Youssef Chahine, il a passé partout, hein, les années 50, 60, avec Gemra Abdennasser, 70. Et après Hosni Moubarak. Et malheureusement, il est décédé avant le reste.
Et comment aujourd'hui, est-ce que le cinéma aujourd'hui, là, sous Al-Sisi, est-ce que le cinéma est complètement libre? Est-ce qu'il faut encore des autorisations pour tourner, pour faire des films? Comment ça se passe actuellement? Marie.
Moi, je ne sais pas beaucoup parce que je suis en France depuis 11 ans. Dernièrement, ces dernières années, on a plus de films qui sont acceptés par la censure. Normalement, on envoie le scénario à la police pour dire s'ils sont d'accord avec le scénario. Ensuite, on passe à la censure officielle et on leur dit que la police, tout est bon, si on peut avoir le permis de commencer à tourner le film. Parfois, malheureusement, il y a une censure après, qu'ils disent que c'est OK pour tourner le film. Avant la projection, on a parfois des films qui sont censurés, même 2 jours avant leur projection en salle. Donc c'est pour ça que c'est un grand risque de produire un film en Égypte, parce qu'on ne sait jamais si on va investir d'argent pour le film et le film va sortir en salle et rapporter cet argent ou pas, parce que ça peut être censuré.
Peut-être l'un des exemples que je peux donner, c'est de Tarek Salih, réalisateur égyptien-suédois, connu en France pour Le Caire confidentiel, mais aussi La conspiration du Caire, qui n'a pas pu tourner en Égypte, qu'il a dû tourner à Istanbul, parce qu'il n'avait pas les autorisations. En plus, il touchait un sujet extrêmement sensible en Égypte, la question des services secrets et aussi le pouvoir religieux. L'université d'Al-Azhar, donc la haute autorité musulmane. Et son dernier film aussi titille toujours la question de la politique avec les aigles de la République. Donc c'est un cinéma profondément politique qui porte le doigt sur la plaie, mais pour réinterroger le vivre ensemble, et en étant à la fois suédois et égyptien. Et cette vitalité-là, on le retrouve dans un autre cinéaste de la diaspora, Aboubakar Chaouki, qui a fait un film très applaudi en France, Yomedine, autour de ce jeune lépreux qui a un monsieur qui a la lèpre, qui a été chassé de sa maison, et qui a, avec un jeune garçon, et ils vont à la quête de sa famille. Et maintenant, son précédent film a été produit par l'Arabie Saoudite, Hajjan. Donc c'est aussi des difficultés parfois qui sont réelles à pouvoir tourner. En France aussi, ça existait jusqu'à il n'y a pas longtemps, il ne faut pas aussi se leurrer. Aujourd'hui, on parle pudiquement de visa de contrôle. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait de la censure, même si ça existait. Un film comme Timbuktu d'Abderrahmane Sissako a été interdit dans des villes en France. Les maires apparemment ont plus de pouvoir que le Centre national du cinéma ou la police française.
Est-ce que quelqu'un a une question? Une remarque?
Bonsoir. C'est vrai que les nouvelles générations, peut-être, ou ici en France, on ne se rend pas compte de ce qu'a été cette effervescence des années 60. Bon, bien sûr que politiquement, quand on revoit le récit de l'histoire tel qu'il s'est déroulé, il y a peut-être des critiques, etc. Mais la période de Nasser, dans les années 60, a vraiment été une éclosion pas seulement de panarabisme, mais aussi de panafricanisme, parce qu'il misait beaucoup sur le cinéma, mais sur la radio et la télévision aussi. Et il y avait des programmes à la radio-télévision égyptienne à destination des nouveaux pays qui accédaient à l'indépendance. Donc il y avait des programmes en direction de la Guinée, du Kenya, du Sénégal, etc., en langue, ou en langue française ou en langue italienne pour ceux qui avaient pu, par exemple, je pense à l'Éthiopie, etc., et à la Libye. Et donc, il y avait cette effervescence, etc., de panafricanisme. Je pense que Monsieur Dia pourrait le dire aussi, que ça a été une époque d'effervescence. Oui, c'est, et puis, cette image... Enfin, d'autres choses, et pour ne pas être plus longue, peut-être que Marie Farag pourrait le dire, il y a quand même une obsession aussi sur l'image de l'Égypte. La censure, ça a été, depuis le début du cinéma égyptien, angoissée par l'image que les films risquaient de donner de l'Égypte. Donc il fallait que tout soit clean un peu, enfin, je ne sais pas.
Il y avait le ministère du tourisme qui était dans le coin.
Oui. Mais oui, l'un des premiers films... Égyptien censuré, c'est le drame de la vie, 1929 aussi, très tôt, la censure se manifeste. Mais il faut savoir que dans l'histoire, le premier film a été censuré. Et c'est toujours ce film, d'ailleurs, Fatima Kuchi Kuchi Beladens, parce qu'à l'époque, les hommes lubriques faisaient une longue queue et s'étaient excités. Et la police disait, mais pourquoi ces hommes sont si excités en voyant cette Égyptienne danser cette danse du ventre dans une Amérique pudigonde où, une femme qui danse était quasiment choquant. Et donc, ce film aussi qu'on peut retrouver a été assuré. Donc, c'est toujours lié à l'Égypte, toujours à l'Afrique, mais c'est vrai aussi, madame, ce que vous dites aussi, c'est vrai, c'est cette dimension panafricaine qu'on a un peu tendance à oublier, à sous-estimer, mais qui était très forte au Caire, à Alger aussi, donner cette dimension de non-affilié. On n'est pas affilié à la France, on n'est pas affilié à la Russie ou à la Chine, mais on a une dynamique panafricaine, ghanéenne, égyptienne, guinéenne, tous parler d'une même voix, d'une Afrique autonome pour être au plus près. Mais du coup aussi, les pouvoirs publics étaient plus titilleux, plus sensibles aussi au pouvoir de l'image, aujourd'hui encore malheureusement.
Il y avait une autre personne qui voulait réagir. Deux autres.
Je voulais vous demander comment ça se passe, le cinéma, aujourd'hui en Égypte, si vous savez. Qu'est-ce que les gens vont voir? Est-ce que c'est toujours un art populaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de salles? Voilà.
Tout d'abord, j'aimerais répondre à la question de l'image de l'Égypte. C'est vrai que la censure, à son début de la censure sur le cinéma, c'était pendant l'occupation britannique en Égypte. Et... donner une image que il y a une pauvreté en Égypte, c'était pas du tout possible. Donc c'est pour ça qu'on avait seulement les films permis. C'était des films qui parlent des gens riches, que tout va bien, on est sous l'occupation mais on est dans un bon état. Mais petit à petit, cette idée de salir l'image de l'Égypte, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, le film, ça peut être arrêté parce qu'on salit l'image de l'Égypte. Même si on écrit un texte, le texte qui peut faire que les gens ont des idées, que, ah oui, comment ça se passe en Égypte, ça peut salir l'image d'Égypte, donc on le censure. C'est jusqu'à maintenant. Malheureusement, ça a commencé depuis très, très, très longtemps et ça n'a jamais arrêté. Pour le cinéma égyptien actuel, du coup, il y a moins de monde qui vont au cinéma, mais... À mon avis personnel, à moi, c'est à cause des problèmes économiques. Parce qu'aller au cinéma, ça coûte cher, cher, cher. Donc, pour une famille, pour aller au cinéma, ça coûte à peu près 1000 livres égyptiens, ou même plus maintenant peut-être. Donc, et avec les plateformes en ligne, les gens préfèrent de regarder les films chez eux parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et il y a aussi les séries qui ont pris une grande place dans la création artistique. Il y a beaucoup de cinéastes comme Yossi Nasrallah, par exemple, qui a fait une série avec Shahid, qui est une plateforme de l'Arabie saoudite. Donc, on a de plus en plus de productions de séries que de films. Mais ça diminue pas la beauté artistique des œuvres. Et en même temps, à l'Arabie saoudite, on a parfois des films qui sont censurés en Égypte et qui ont eu le permis d'être projetés à l'Arabie saoudite. C'est choquant de dire, mais ça arrive que parfois il y a des cinéastes qui ont leurs films qui sont dans les salles à l'Arabie saoudite et qui peuvent pas montrer leurs films en Égypte.
Vas-y. Je voulais juste faire le lien avec le film qu'on a vu hier soir, L'Entente de Mohamed Rachad. Il y a un autre film qui a choqué, non pas la censure égyptienne, mais les cinéastes, les professionnels du cinéma égyptien. C'est Feather Plume, qui date d'il y a 3 ans, et qui montre juste une famille qui est tellement... Ça rappelle un peu un film, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, Délicatessen, cette ambiance sépia avec cette délicatessence de la morale derrière, et juste c'est l'histoire d'un papa qui veut faire organiser un repas d'anniversaire pour son fils et qui amène un magicien qui le transforme en poule. Et il disparaît. Et bon, c'est très loufoque. Mais derrière, pour se racheter, comme la femme ne peut pas aller travailler à l'usine, ce sont ses enfants qui vont aller à l'usine. Donc, d'où ça m'a fait penser. Et ce film montre une Égypte tellement dans une détresse économique tellement forte que à la première au Caire, au Festival du Caire, les gens se levaient et claquaient, les professionnels étaient choqués, alors que la censure laissait faire. Comme quoi, la censure n'est pas toujours du côté où on le craint aussi. Voilà, je voulais juste apporter ce témoignage-là.
Et du coup, pour rebondir aussi, effectivement, tu parles de festivals, et en Égypte, il y a des grands festivals voilà, qui ont des renommées internationales et qui sont très importants aussi pour le continent africain. Donc c'est aussi des moments où les professionnels du cinéma se rassemblent, se réunissent. Il y a le Festival du Caire, le Festival de Luxor, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Le Festival du Caire, qui est le seul festival africain de rang A, comme le Cannes, Berlin. Il n'y en a pas beaucoup, je crois il y en a 9 ou 12, je ne sais plus trop. Mais bon, c'est très rare d'avoir... néanmoins, curieusement, ce n'est pas forcément le festival qui a le plus d'impact pour le continent. Parce que l'Égypte, ce cinéma égyptien, est, depuis la fin des années 80, est plus tourné vers le monde arabe. Donc, et c'est d'où la raison, le fait qu'aussi d'aller chercher les moyens à Dubaï, au Qatar et en Arabie Saoudite. Et il y a ce festival, très très beau festival à Luxor, le festival du film africain de Luxor, où on croise Souleymane Cissé du Mali, Mustapha Alassane du Niger, des cinéastes comme Moussa Touré du Sénégal, une jeune cinéaste namibienne, Désirée Kaoukoupo, qui vient de faire son premier film. Et donc vraiment aussi c'est cette curiosité-là, alors que le Caire est toujours un grand festival, mais n'a pas cette, malheureusement cette appétence du tête chercheuse et de rassemblement éco-médiatique comme les Cannes pour le... Et si bien que c'est un festival important, le Caire, mais qu'il est moins que, par exemple, le festival de Carthage en Tunisie, le festival du FESPACO, qui est le deuxième au Burkina, ou celui de Durban en Afrique du Sud, qui est le troisième. Il y a maintenant, qui se fait doubler aussi par le festival de Marrakech au Maroc, parce que voilà, il y a aussi plus d'argent qui a été mis par le pouvoir public pour et après il y a aussi d'autres festivals très importants comme à Ismaïla aussi, Ismaïlia, documentaire et court métrage aussi, qui est le festival majeur du film au
cours. Oui, il y a le Ghana, il y a le Caire, oui. Il y a le Ismaïlia, il y a Luxor.
Oui, on voit que c'est encore bien développé, quoi. Une dernière question et on va devoir clôturer l'émission.
Bonjour. Je voulais juste revenir sur le, quand vous avez parlé tout à l'heure de pourquoi en fait le cinéma égyptien a beaucoup voyagé, a été beaucoup diffusé en Afrique. Moi, en fait, je suis d'origine marocaine et toute mon enfance, en fait, on a toujours regardé des films égyptiens. Et moi, mon point de vue, c'est vraiment pas forcément par rapport à l'arabe utilisé, c'est beaucoup vraiment par rapport aux chanteurs en fait, qui étaient déjà écoutés à la base. Et puis la qualité cinématographique, en fait, qui était largement supérieure à tout ce qui existait à ce moment-là, je pense, dans toute l'Afrique. De mon point de vue, c'était vraiment du grand cinéma, des sujets qui ne sont pas forcément traités dans tout le cinéma. Même, par exemple, au Maroc, ça restait quand même très débutant à ce moment-là. Et en fait, donc du coup, pour moi, c'était vraiment la qualité. Ça se voyait que c'était des gens qui sont, c'est des vrais, des acteurs qui sont sûrement allés à l'école de l'art, etc. En fait, c'est pas que une caméra et des acteurs comme ça. C'est des gens vraiment qui ont fait beaucoup de travail et ça se ressentait en fait dans les films. Et puis, donc les sujets aussi traités, qui étaient voilà, forcément beaucoup d'amour, beaucoup de chants, etc., ça touchait énormément. Ça parlait aussi de pauvreté, ça parlait de pas mal de sujets de société qu'on n'entendait pas forcément parler ailleurs. Voilà, donc je voulais vous partager celui-là. Et puis, pour La vie après Siam, qui est un documentaire, en fait. Moi, avant, je pensais pas que c'était un documentaire. Et quand je l'ai su, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, bon, parce que j'avais hâte de revoir un cinéma égyptien. Et au final, c'était une très, très bonne surprise, vraiment incroyable. J'ai beaucoup pleuré parce que c'est vraiment très touchant. C'est très, très touchant. C'est fait d'une manière incroyable, ce côté patchwork un peu de la vie réelle et puis de retour sur des extraits du cinéma que moi, je n'ai pas reconnu forcément, mais je trouvais que c'était incroyablement... techniquement, en fait, c'était vraiment très beau et ça nous a touchés. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a touchée. Voilà. Merci.
Merci.
Je crois qu'il y avait une dernière question, si c'est possible.
La dernière des dernières. Sinon, je vais me faire assassiner. Comme vous voulez.
Bon. Moi, je voulais juste rebondir sur Youssef Chahine, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué qu'est-ce que Youssef Chahine a apporté au cinéma égyptien. Moi, je dirais qu'est-ce que Youssef Chahine a apporté au cinéma arabe. Et pour moi, je pense que Youssef Chahine, la chose qu'il a distingué, c'est qu'il a été peut-être le premier qui a su réconcilier le cinéma qu'on appelle grand public, disait à l'époque... le public veut ça, donc on donne au public ce qu'il veut, et le cinéma qu'on appelle cinéma d'auteur. Donc il a réussi à réconcilier ces deux aspects-là pour donner un cinéma qui plaît à tout le monde. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très, très marquant, très intéressant. Et donc il fait partie de cette génération qui a porté le cinéma égyptien, le cinéma arabe, je dirais, vraiment très, très, très haut. Et puis... Le point fort du cinéma égyptien, ce n'est pas l'utilisation de l'arabe dialectal, c'est plutôt de l'arabe littéraire, c'est plutôt l'utilisation de l'arabe dialectal, le dialecte égyptien. C'est ça son point fort. Et même avec des films historiques tels que, par exemple, Le Destin, Le Masir, c'est un film qui se passait en Andalousie, donc il a été censé au moins utiliser un arabe maghrébin. Donc, Yousuf Chahine a fait le choix d'utiliser l'égyptien. Ça a choqué au début, mais ça a plu à tout le monde. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Une dernière chose, c'était pour parler que ce qui a fait aussi la force du cinéma égyptien, c'est que c'est là où on a créé le premier institut de cinéma, le Mahad Al-Ali Cinéma Fémastre, qui est resté pendant très très longtemps le seul établissement, la seule école qui forme des cinéastes. C'est pour une réponse à la réaction de tout à l'heure par rapport à des comédiens, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont été formés dans vraiment des très très grandes conditions de formation. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Merci pour vos interventions. Merci Marie Farag.
Merci Rémi.
Pour ta présence et ton érudition, Thierno, la même chose. Hein. Merci pour tout.
Merci Rémi.
Cécile, peut-être avant de clôturer, est-ce que tu peux dire deux, trois mots sur la suite du festival, peut-être, pour ceux qui, celles qui nous écoutent ?
Eh bien oui, bien sûr. Merci à vous tous, en tout cas. Merci au public d'être resté pour le plateau radio et d'avoir échangé avec nous sur ce film qu'on vient de voir, La vie apprécia, mais sur le cinéma égyptien. Et puis moi, j'invite les spectateurs dans la salle et les auditeurs à regarder avec attention la plaquette du festival. Donc le festival continue jusqu'à mardi soir. Et d'ici là, encore beaucoup de rencontres et d'échanges et de débats qui seront très riches. Notamment là, à 17h30, on a un film burkinabé sur les traces d'un migrant de Delphine Yerbanga en sa présence. Puis ce soir, Une si longue lettre, donc l'adaptation du roman de Mariam Ba en présence de la comédienne. Et puis, je ne vais pas vous citer toutes les séances, mais je suis sûre que selon les emplois du temps de chacun, vous trouverez une séance pour venir à mon ciné, à Saint-Martin-d'Air, et venir partager un moment de cinéma du continent africain, un cinéma, hélas, qui est invisible sur les écrans en France. Et c'est aussi la volonté de notre festival et de mon ciné, c'est de rendre visibles tous ces récits, toutes ces histoires, qu'on puisse parler de cet immense continent qui est immense et qui, hélas, fait très peu, en tout cas, parler de son cinéma et de plein d'autres aspects d'ailleurs aussi. Mmh. Donc vraiment, venez soutenir le cinéma africain à mon ciné cette semaine.
Thierno.
Saluer aussi l'action du cinéma, mon ciné, et dire que même après le festival, il y a encore des films africains, dont un film de Youssef Chahine, parce que c'est le centenaire cette année, 1926. Il est né en 1926, donc on célèbre cette année un peu partout à l'Institut du monde arabe à Paris, un peu partout en France et dans le monde, et ici à Saint-Martin-d'Air, donc Youssef Chahine.
Merci. C'était Arnaud qui était à la technique. Merci à toi, Arnaud. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8.